Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Macha Meryl, bonjour.
Bonjour Solange.
C'est un très grand plaisir de vous interviewer de nouveau pour ce livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel, Je marche vers elle. Un livre magnifiquement écrit, très émouvant, très intelligent, je dois dire, où vous parlez de votre sœur Hélène qui nous a quittés dernièrement. Hélène qui était votre grande sœur, elle avait 11 ans de plus que vous et qui a pris le relais après votre maman, hélas disparue. Elle a pris le relais envers vous. Et il y a aussi une autre sœur qui est Elisabeth, mais qui elle a 4 ans de moins que Hélène. Donc il y a Hélène, Elisabeth et puis vous, la toute petite dernière, une grande actrice, une grande star.
Écoutez, dans une famille, quand on, comme ça, il y a une déflexion, tout l'équilibre de la famille est bouleversé. Mais quand on parle du départ de quelqu'un qui nous est très proche et qui fait partie comme ça de la structure de nos vies, parce que j'ai vécu 80 ans avec ma sœur, hein, elle était ma sœur aînée, et donc c'est comme si on pense qu'elles sont indestructibles, les sœurs, qu'elles vont jamais disparaître. On parle aussi beaucoup de soi, c'est-à-dire que l'approche de la mort est une grande réflexion. D'abord, peut-être que c'est l'événement le plus important de la vie, la mort. Mais la mort en soi c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave et ce qui est douloureux, c'est après, c'est l'absence, c'est toutes les choses qui succèdent. Surtout, alors la chose la plus terrible, c'est les objets, vider l'appartement, retrouver tous les souvenirs d'enfance, etc. Mais il y a surtout, tout d'un coup, on se met à réfléchir. Comme elle disait, ma sœur, dans les derniers temps, elle avait des réflexions extraordinaires et que je pense qu'on a que quand on s'approche de la mort, elle m'avait dit cette chose, tu sais, la vieillesse, c'est pas si mal, on voit la vie vue d'avion. Et je pense que moi, tout ce livre qui a été pour moi une nécessité, je prenais des notes le soir, c'était les derniers mois, je voyais bien que c'était inéluctable, que la fin s'approchait. Et j'écrivais, et c'était pour moi pour fixer toutes ces réflexions-là très très importantes, très profondes et qui vous servent, dont on a besoin. Et je ne savais pas que ce serait un livre. Ce qui est formidable, c'est ça. C'est que mon éditeur m'a dit, écoute, il faut que tu le publies parce que tout le monde traverse ce genre d'épreuves et ce genre de moments et que ce n'est pas une chose triste. Vous savez, c'est du mouvement. Quand je dis je marche vers elle, je marche vers ma sœur, mais je marche aussi vers la mort, moi-même. Hein, j'ai 85 ans, donc il y a un compte à rebours quand même qui existe. Et elle m'a, avec cette façon élégante de partir, cette façon de ne pas parler de choses graves, on n'a jamais eu de conversation sur la mort, on n'a jamais eu non plus, elle se plaignait pas, etc. J'ai pu comprendre à quel point nous étions semblables et que dans une famille, il y a cette chose formidable, c'est la ressemblance. On se ressemble. On a les mêmes formations, on a les mêmes critères. Et je me suis vue à travers elle et je me suis dit, ben voilà, quand je partirai, j'espère partir aussi d'une façon aussi belle qu'elle. C'est donc pas un livre triste du tout. Hein. C'est un livre d'accompagnement et je dirais de précision. Je crois qu'on a tous en tête l'idée de la mort. Hein. Je crois que depuis l'enfance, hein, personne ne peut échapper à ça. Moi, je me rappelle le premier contact que j'ai eu avec la mort, j'avais 4 ans, c'est quand ma tortue a été écrasée par une voiture. Il paraît que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et que à ce moment-là, je ne pouvais pas soupçonner que mon papa allait mourir dans 2 ans et que j'ai moins pleuré pour mon père que pour cette tortue. Parce que la tortue, je l'ai vue de mes yeux, la mort. Mmh. Et ce qui m'est arrivé avec ma sœur, c'est ça. C'est que j'ai vu s'approcher la fin. J'ai vu que c'était pas vraiment une agonie, parce qu'elle était très orgueilleuse, donc elle, jusqu'à la fin, elle s'habillait, elle se coiffait, elle venait au salon, elle souffrait terriblement, mais je lui apportais des bons petits plats, on mangeait ensemble, elle était toujours gourmande et tout ça. Mais c'était un parcours qu'elle m'a montré. Elle m'a montré comment on peut finir, comment est-ce que la vie peut s'en aller sans que ce soit dégueulasse, sans que ce soit ni moche, ni chagrinant, ni pleurnichant. Vous voyez, c'est ça. Et cette chose-là, j'ai pensé qu'il fallait que je la transmette, que je dise à quelqu'un, à vous, au lecteur, qu'on peut mourir comme ça.
Alors, votre sœur Hélène est morte le 14 août 2024. Elle avait 96 ans. Et dire de vous, déjà, que vous êtes une princesse. Masha Meril, vous êtes née Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. Est-ce que vous
pas
êtes
mal,
en famille avec...
Pas mal, avec l'accent, hein, parce qu'il manque
l'accent tonique. Alors, c'est, oui, votre accent tonique, dans la deuxième...
Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina, c'est pas facile à dire, hein. C'est du russe, hein. C'est vraiment du russe. Alors, vous savez, nous sommes des migraines, donc des exilés, et mes sœurs et moi, nous avons vraiment voulu nous insérer dans la société française, parce que mes parents le souhaitaient hardiment. Ils voulaient que mon père disait... Une sera institutrice, l'autre sera couturière et la troisième infirmière. Alors, aucune de nous n'a obéi à ces instructions, mais nous avons quand même voulu être tout à fait françaises. Et moi en particulier, parce qu'en plus, moi j'ai ajouté le militantisme politique que mes sœurs n'ont pas pratiqué. Mmh. Moi, j'étais d'une génération qui a fait 68, donc j'ai très vite, depuis à l'université, mes professeurs étaient tous de gauche, donc j'ai été forcément formée d'une certaine façon pour qu'on a fait 68, ma génération, et surtout la libération des femmes, l'émancipation des femmes, parce que je pense, pour moi, 68, c'est la libération des femmes. Et donc, évidemment, j'étais plus impliquée que mes sœurs. Mais quand même, tout en étant très française et très, comme dans ce moule politique et culturelle qu'est la France, avec le temps, les origines, ça remonte. Vous savez, ça remonte comme je dis, comme l'huile sur la sauce tomate. À la fin de la cuisson, tu vois cette couche qui est tes origines. Et les origines, on ne peut pas les nier. On ne peut pas les effacer. D'ailleurs, il ne faut pas les effacer. Il ne faut pas non plus en faire un espèce de détendard. Hein, moi, je ne suis pas particulièrement fière d'être une aristocrate russe, etc. Ça ne nous a rapporté rien du tout. Hein. Nous étions fauchés. La vie a été très dure, et pour ma mère et pour mes sœurs. Mais quand même, c'est là. Et ce lien-là, il se multiplie entre sœurs, entre frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on se reconnaît là, justement, de quelle manière on a transporté au cours de sa vie ses origines. Et moi, vous voyez, ça m'a donné beaucoup. Ça m'a donné une espèce de fierté naturelle. Je ne suis pas orgueilleuse, mais je suis fière. Et quand j'ai un succès professionnel ou quoi, je l'attribue un tout petit peu à ça. À mes origines, au fait que je suis obligée, étant ce que je suis, d'être la meilleure, de faire tout bien. Vous voyez ? Et ça, je crois que c'est un syndrome très particulier des exilés, des émigrés. C'est-à-dire qu'on est obligé de se battre un peu plus que d'autres, un peu plus davantage que les Français de souche. Et donc, il faut forcément être les meilleurs, forcément être en tête de liste. Vous voyez ? Et ça m'a porté et ça a fait une sorte d'ambition qui n'est pas une ambition vulgaire, qui n'est pas une ambition de vouloir être, comment dire, privilégié, avoir un succès. Non, c'est être à la hauteur de l'hospitalité que m'a donnée la France. La France nous a accueillis, nous a reçus, a donné la nationalité française à mes parents, puis donc à nous, puisque nous sommes nés de parents déjà naturalisés. Et j'ai trimballé ça toute ma vie, vous voyez, de mériter d'être française.
Alors, bien sûr, nous parlerons évidemment d'Hélène qui était monteuse de films, avec beaucoup de talent, d'intuition, de courage. Hélène qui parlait bien, qui était de bons conseils, qui savait écouter. Hélène, votre sœur, celle qui vient de disparaître, qui a beaucoup d'allure et de classe, avec beaucoup de réserve, pas d'humilité, mais disons de dignité. Hélène qui était... d'emblée, visiblement, d'origine aristocratique. Alors, vous parlez de cette classe, ce sont aussi les origines qui s'expriment. Mais j'aurais voulu j'aurais souhaité parler de vous aussi, donc une très grande actrice. Vous avez suivi des cours de théâtre au TNP, vous avez rencontré Gérard Oury qui vous a donné un rôle, votre premier rôle qui vous a lancé. Vous avez aussi suivi les cours à New York au Actors Studio. Vous avez rencontré Jean-Luc Godard pour la Nouvelle Vague. Vous avez joué avec les plus grands, Buñuel. Comment est-ce que ça s'est tricoté tout ça ?
Alors, vous savez, il y a une chose qui a guidé mon existence, c'est la curiosité. Quitte à même quelquefois, quand la vie me faisait un signe et me proposait quelque chose, une direction, à renoncer à des choses déjà un peu construites pour aller dans une autre direction. Je ne sais pas si ça a été tout le temps propice, et tout le temps s'il a toujours été profitable, mais c'est un peu une caractéristique de ma vie. Et je pense que ça, je le dois au fait d'être justement un peu plus libre que sont les gens qui ont des grandes traditions ancrées, familiales ou même culturelles. Étant fille d'émigrés et étant aussi une artiste quand même, parce que c'est là que on ne choisit pas ça. C'est une aspiration qui vient un petit peu malgré vous. J'ai gambadé dans l'existence et j'ai récolté beaucoup de choses qui, je crois, se voit dans ce que je fais, c'est-à-dire dans ce que j'écris, dans ce que je joue. Je vous amène tout ça. Je vous ramène toute cette récolte que ma curiosité m'a amenée. Mais il y a un revers. Le revers, c'était ma vie sentimentale. C'était très compliqué parce que, comment vous dire, j'ai quand même compris que, étant ce que j'étais, la bonne bourgeoisie française, ils ne nous épouseraient pas. Ni mes sœurs, ni moi. Et finalement, on a toutes les trois eu des histoires avec des étrangers, avec des métèques, avec des gens un peu dans notre situation, pour cette raison-là. Mais c'est une richesse. Vous savez, la vie, c'est ça. Il y a les avantages, les inconvénients, les avantages. Et que le fait d'être un peu libre comme ça, d'être un petit peu vagabonde, ça m'a donné une personnalité, ça m'a donné une force. Et puis, jusqu'au moment où j'ai retrouvé mon amour de jeunesse qui est Michel Legrand, et en fait, il avait fait un peu la même chose que moi. C'est-à-dire que lui aussi, étant d'origine arménienne, hein, il a aussi cherché quelque chose qui n'était pas tout à fait encadré en France et qu'il ne pouvait pas trouver en France. Et quand on s'est retrouvé, on a compris qu'on était jumeaux, qu'on avait un peu quelque chose en commun qui était cette errance culturelle, artistique, bien entendu, que nous avions mis à profit, hein, parce que lui, il a fait cette œuvre incroyable. Moi, plus modestement, j'en ai fait une aussi. Et quand on s'est rencontrés, on s'est offert nos vies. Je lui ai offert la mienne, il m'a offert la sienne. Et c'était quand même, vous vous imaginez pas le bonheur, la jouissance incroyable que c'était. Et puis il est parti. Et quand il est parti, c'est la première fois où j'ai été vraiment fortement confrontée à la mort. Mais il m'a laissé des instructions. Il m'a laissé d'abord un cahier des charges, beaucoup de choses à faire. Hein, mm-hmm. Un opéra qu'on a écrit ensemble, des chansons inédites, etc. Donc ça a meublé un peu son départ, parce que c'est comme s'il m'avait laissé, vous savez, comme ça, en héritage, du boulot, une fonction. Et puis, il était le premier qui m'a appris à ne pas redouter la mort. C'est-à-dire, il me disait tout le temps, mais tu sais, c'est bien là-bas, tu vas voir, on va se retrouver tous. Lui, il était un peu spiritiste, hein, il faisait tourner les tables, tout ça, il croyait à des choses. Moi, j'étais un peu plus pragmatique, parce que je suis quand même une vieille marxiste, hein, je ne pouvais pas croire à tout ça, mais quand même, il me disait, mais écoute, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Alors, tu me crois? Oui, je te crois. Alors, laisse tranquille, tu verras. La vie, c'est pas tout. Il y a quelque chose après, il y a quelque chose de grand qui nous attend. Et j'ai eu cette sensation aussi auprès de ma sœur, qu'elle s'acheminait vers quelque chose de très grand, et qui n'était pas chagrinant, c'est pas épouvantable. Ce qui est épouvantable, c'est la douleur quand on est malade, et quand on souffre, et quand on a... Et ce qui est épouvantable, c'est quand on est plus conscient, quand on est dans des maladies telles qu'on n'est pas... Ça, c'est vraiment atroce. Donc je me souhaite à moi-même une mort un peu comme ma sœur, c'est-à-dire lucide jusqu'à la fin. Vous savez que jusqu'au dernier moment, quand elle a été vraiment, alors là c'était un peu la fin, on l'emmène aux urgences, et il y avait dans la salle d'attente des urgences, vous savez qu'on attend longtemps, hein, même quand on est très mal, et il y avait des enfants noirs qui jouaient dans ses pattes, et qui tournaient, qui jouaient au foot. Et les derniers mots qu'elle a eus, ça a été de l'humour autour de cette réalité qui l'entourait, parce qu'elle avait toujours les yeux ouverts sur ce qui se passait autour d'elle. Et je crois que vous voyez la clé, la leçon numéro un que j'ai retenue de cet accompagnement, c'est qu'il ne faut pas rester à l'intérieur de soi. Il ne faut pas se renfermer. Il faut toujours continuer à regarder dehors. Parce que ça vous aide d'abord à supporter votre propre sort, qu'en plus on est plus élégant parce qu'on ne pleurniche pas. Et en même temps, c'est la solution, c'est la réponse. Ne jamais s'enfermer. Et ça, j'espère que mon petit livre va faire comprendre ça à mes lecteurs.
Oui, justement, Hélène, elle avait des voisins de toutes origines et à la fin, quand elle était, bon, elle était âgée, elle était très âgée, mais comme elle était très ouverte et très amicalement impliquée,
hospitalière. Elle était très hospitalière. Elle recevait tout ce monde, ça défilait chez elle, elle écoutait tout le monde. Mm-hmm. Ça l'intéressait vraiment, ça l'intéressait. Alors il y avait surtout des communautés, des Marocains, des Algériens, des Africains, vous savez, dans ces grands immeubles qui sont des logements sociaux de la ville de Paris, elle avait obtenu ce logement et où elle a été très contente d'avoir obtenu ça, parce qu'on était fauchés, hein, et puis elle aussi, elle a eu une vie très dure. Mais il n'empêche qu'elle a été curieuse de tout ça. Et ça l'a accompagnée. Tous ces gens venaient en quelque sorte raconter leur malheur. Elle, non. Elle ne racontait pas ses malheurs. Elle était toujours très, très... Vous savez, c'est peut-être ça, un trait aristocratique. C'est de ne pas se plaindre. Mm-hmm. Et je pense que c'est une énorme force de ne pas se plaindre. Parce que quand tu prends sur toi, et quand tu dis je ne vais pas me montrer dans une situation défavorable. Mm-hmm. C'est la réponse. Tu te tiens, tu te réserves à toi-même et tu ne te plains pas. Et ça, c'est quand même comme une ligne de conduite ou une sorte d'élégance naturelle. Alors, ça, c'était merveilleux parce que nous, on se disait quelquefois, elle doit se barber quand même avec tous ces gens qui défilent chez elle. Non, et ça l'intéressait véritablement. Et puis, c'était aussi la France. C'est-à-dire qu'elle voyait l'évolution de la France, donc elle n'était pas, elle ne se faisait pas d'illusions sur ce que vit en ce moment une grande ville comme Paris et est-ce que nous sommes tous obligés d'en tenir compte et comment, parce que c'est la richesse de la France aussi. Mmh. Ça n'est pas que négatif. Il y a bien sûr des choses qui nous déplaisent parce que quelquefois on voudrait un peu moins qu'il y ait moins de pizza ou de falafel dans nos magasins. On voudrait manger aussi la cuisine française traditionnelle. Mais c'est la France. Et c'est un aspect, qu'elle ne refusait pas, qu'elle ne s'enfermait pas.
Mmh. Alors, elle avait aussi la passion des photos. Elle avait dans sa maison, chez elle, tout un mur recouvert de mille et une photos de tous les temps, de n'importe qui, mais qui étaient soigneusement encadrées. Et c'était pour elle, au lieu de regarder longtemps la télé, elle regardait ce mur et se rappelait les gens, revivait les moments, la vie. C'était finalement, elle avait beaucoup d'une artiste.
Tout à fait. Vous savez, ça touche beaucoup ce que vous me dites. Parce que j'ai compris, et c'est des choses qu'on comprend après, que ce mur de photos, c'était comme un temple. C'était pour elle un lieu de recueillement et de retourner vers son passé, mais pas d'une façon comme ça, nostalgique ou quoi. C'était vivant pour elle. Et vous savez ce que j'ai fait ? Je l'ai reproduit, son mur. Ah, il y a une grande pièce chez moi.
Où ça, à la maison du Gers ?
À la maison, pas dans le Gers, mais dans la maison de Michel Legrand, où je vis, qui est à côté de Paris. Mm-hmm. Et il fallait un endroit où il y ait des grands murs, parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup de photos. Mm-hmm. Eh bien, je les ai toutes conservées et j'ai reconstitué ce mur. Et vous savez, je suis heureuse d'avoir fait ça, parce qu'il n'y a rien au monde qui pouvait plus lui faire plaisir que nous respections cette passion qu'elle avait pour les images. Alors, c'est pas par hasard, elle a fait du cinéma, elle était monteuse, elle coupait les films en petits morceaux, mm-hmm. et plutôt, elle les ressoudait, elle en faisait des films. Vous savez, le métier de monteur, très peu de gens savent ce que c'est. C'est fondamental, parce que c'est eux qui font le film.
Bien sûr.
Le metteur en scène, il tourne tous les plans, il tourne tous les jours des petits bouts de séquences et de d'histoire. Et après, c'est le monteur qui le met ensemble, ou la monteuse, et surtout qui doit donner une unité au film. même, et même une espèce d'élégance, une sorte de que ça coule, que ça soit fluide. Mm-hmm. Et elle avait beaucoup le sens de ça, d'abord parce qu'elle avait elle était très observatrice, elle avait un œil, et surtout, elle était musicienne. Elle aimait la musique. Et vous savez, la musique et le cinéma, ce sont les deux arts qui sont les plus proches, parce que ce sont des durées, et ce sont des émotions. Et qu'il faut savoir manier ça. C'est pas si simple. On peut pas mettre côte à côte une scène forte et une scène ennuyeuse. Ou... Il faut qu'il y ait un équilibre, que les choses s'enchaînent naturellement. Et elle avait beaucoup ce sens-là. Et puis le deuxième, c'est que les metteurs en scène sont toujours horriblement angoissés quand ils font les films. Et comme ma sœur était extrêmement équilibrée, elle avait un bon caractère, elle était joyeuse, elle était intelligente. Elle les accompagnait, c'était comme une psy, hein. Elle les accompagnait pendant la fabrication du film. Et moi, j'ai assisté à ça, beaucoup de fois, à quel point elle savait en douceur leur tenir tête quand il fallait qu'ils coupent des scènes ou qu'ils en écourtent certaines, etc. C'est un art, vous savez, c'est un art très, 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 très rare. Et que les metteurs en scène reconnaissent, hein. Quand ils ont un bon monteur ou une bonne monteuse, ils sont reconnaissants.
Est-ce que ça ne vous a pas donné envie, vous, de... tourner votre propre film, ou si vous l'avez tourné, rappelez-moi, vous avez tourné
un film. Alors j'ai fait un film, moi j'ai fait un tout film en
d'accord,
ma vie, que j'ai mis en scène, qui s'appelle À la Turca, et que je n'ai pas pu faire pour le cinéma parce que je n'ai pas obtenu l'avance sur recette, donc je l'ai fait pour la télévision. C'était Didier Decoin à l'époque qui s'occupait de la fiction au cinéma, à la télévision à France 2, et donc je l'ai fait pour la télévision. Maintenant j'ai un autre projet, c'est un projet un peu que m'a dicté Michel Legrand. Il m'a dit, écoute, un jour il faut que tu fasses un film sur ta vie. Oh, j'ai dit, écoute, t'es gonflé, comment est-ce qu'on fait un film sur sa vie, c'est pas moi qui peux le faire pour quelqu'un d'autre. Il dit non, c'est toi qui dois le faire. Parce que toi, il faut que tu aies le courage de raconter les moments difficiles et les beaux moments. Mmh. Et que tu racontes comment le cinéma t'a sauvé la vie. Mmh. Et c'est la vérité. Parce que le cinéma, c'est extraordinaire. Il est venu à mon secours chaque fois que j'avais vraiment un moment difficile, une crise. Et des grandes, vous savez, on en traverse tous. Hein. Mm-hmm. J'ai eu des moments de dépression, j'ai eu des moments de découragement. Quand on se dit, mais alors est-ce que c'est bien ce que je fais? C'est pour ça que j'aime la vieillesse, parce que quand on est vieux, on n'a plus ça. On n'a plus de doute sur ça, parce qu'on a déjà, on a le bilan de sa vie et on ne peut plus avoir que des bonnes choses. Et j'aime énormément les années que je vis en ce moment, parce que c'est la somme de tout ça, en même temps avec une expérience, une espèce de recul qui fait que ça m'amuse même quand il y a des difficultés. Mm-hmm. Je n'ai pas peur, vous voyez. Mm-hmm. Alors que quand on est jeune, on vit dans la trouille, on se dit, est-ce que j'ai pris la bonne direction? Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est ça que je dois faire? Enfin, tandis, et puis même chose dans la vie sentimentale. Mm-hmm. On est aussi très inquiet. Est-ce qu'on est avec la bonne personne? Est-ce qu'on va... Enfin bon, bref, toutes sortes de d'inconvénients. Mm-hmm. Qu'il faut que quand on a mon âge, eh ben ça y est, je suis à l'abri de tout ça. Et maintenant, je ne peux vivre que des moments heureux. Et d'ailleurs, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. En ce moment, je joue un spectacle qui est les textes de George Sand, auquel Chopin répond par des musiques. C'est un très grand pianiste qui joue avec moi, qui s'appelle Eric Berchaud, qui est un prix Chopin à Varsovie, donc un grand, grand pianiste. Eh bien, j'ai l'impression que je mets dans George Sand... qui dit des choses extraordinaires, hein, parce que c'est un esprit vraiment très bien fait, c'est une intelligence fulgurante, je mets toute cette expérience personnelle là-dedans. Et si j'ai du succès en ce moment, vraiment, je vous dis, on est ovationné tous les soirs, c'est parce que c'est pas que du George Sand, c'est ma vie aussi que je mets dedans. Mmh. Et que quand ils m'entendent, ils entendent la somme de toutes ces épreuves que j'ai traversées et que j'ai peut-être réussi à vaincre. Je pense que c'est ça, la vieillesse. La vieillesse, c'est une apothéose, c'est un succès. Puisque si on y arrive à la vieillesse, ça veut dire qu'on est arrivé à vaincre toutes les embûches. Mmh. Voilà. Et donc, je vis une espèce de bonheur très, très complet, qui est celui d'avoir bien vécu le départ de ma sœur, de l'avoir accompagnée aussi tendrement que possible, mais aussi d'avoir écrit ce livre pour elle, en hommage à elle, et maintenant de jouer cette pièce qui est en son hommage, en hommage de Michel Legrand et en hommage de mes petites réussites. Voilà.
À partir de ce que vous m'avez dit, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà écrit le scénario de votre vie, puisque ce film, faudra le faire?
Bonne question.
Oui.
Alors je vais vous faire une deuxième confidence, puisque vous posez des bonnes questions. J'ai écrit et à l'incitation de mon éditeur. Après que j'ai écrit ce petit livre, qui était un livre alors que j'ai écrit d'une traite, comme ça, tel que vous l'avez lu, hein, j'ai pas fait la moindre correction, l'ordre des scènes, l'ordre des chapitres est absolument naturel. Alors il m'a dit, bah, écoute, si tu veux faire ce film, pourquoi ne pas publier le livre d'abord ? Tu écris le roman, cette espèce d'auto-fiction, et puis après tu feras le film, ça sera plus facile. Parce que trouver le financement pour un film comme celui-là, qui est quand même un film ambitieux, ça va pas être commode. Donc, et alors je lui ai obéi. Et effectivement, je viens de terminer le roman de ce futur film.
Extra, et maintenant, oui. Et ça paraît quand ?
Inch'Allah, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je suis très curieuse de voir quel va être le destin de cette espèce de bouteille à la mer que je vais lancer. Le livre va sortir à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Il faut d'abord laisser vivre celui-ci qui vient de sortir. Et donc, je vous donne rendez-vous l'année prochaine.
Ah oui, moi aussi.
Avec cet autre livre. Et on verra s'il engendre un film, comme je l'espère, ou pas. Voilà.
Il sera porté probablement par la musique. La musique, puisque vous êtes musicienne, votre sœur Hélène aussi, et puis le grand Michel Legrand. La musique, c'est un influx nerveux, c'est une pensée mathématique, miscible avec les émotions des humains. Quoi de meilleur support pour un film sur votre vie ?
Plus que ça, Michel Legrand disait « La musique doit aider à vivre ». Et je partage tout à fait, parce que la musique, c'est quand même la fraction la plus complète, c'est ça nous élève. Et quelle que soit la musique d'ailleurs, hein, quel que soit le genre, Michel justement, il a navigué entre le jazz, entre la variété, entre la comédie musicale, et entre les chansons et la musique classique. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose, une vertu dans la musique, d'ailleurs Nietzsche l'a dit, le monde ne serait pas le monde, il ne pourrait pas être vivable sans la musique. Mm-hmm. Je crois ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé le prix Michel Legrand. Après son départ, j'ai réfléchi, je me suis dit la chose qu'il aurait le plus souhaité, c'est qu'on soutienne les compositeurs de musique de film. Imaginez-vous que maintenant, les plateformes genre Netflix, Amazon et compagnie, ils ne veulent plus engager un compositeur parce que ça coûte trop cher les enregistrements, parce qu'après, il faut leur payer des droits, etc. Ils achètent de la musique au kilomètre dans les banques de musique. Et surtout, avec l'intelligence artificielle, ils se font fabriquer des espèces d'ersatz de musique existante. Alors, c'est terrible, parce qu'ils ont vécu une grande époque rose. Michel Legrand, Maurice Jarre, Delerue, Morricone et tous ces gens qui étaient engagés pour écrire des grandes musiques qui ont laissé des souvenirs d'ailleurs éternels, plus que les films quelquefois. Donc j'ai créé ce prix. Nous le donnons chaque année dans la maison de Michel Legrand, qui est une propriété dans la forêt, qui est très belle, à côté de Montargis. Et cette année, c'est la 5e édition. Ça couronne un compositeur de musique de film, un jeune, un émergent, et nous donnons un prix à un célèbre, quelqu'un qui a déjà fait sa carrière. Cette année, le président du jury, c'est Volker Schlöndorff, qui est un grand metteur en scène allemand, mais qui a surtout beaucoup connu la France et qui aime particulièrement la musique au cinéma. Et puis, nous avons eu dans les précédents présidents, Claude Lelouch, Jean-Jacques Hannault, Pascal Ferrand, enfin des grands noms. Et c'est formidable parce que j'ai l'impression que je fais une bonne action et en même temps que j'honore Michel dans la mémoire de tous. Nous faisons un concert à l'occasion de cette remise de prix. Et un grand déjeuner sous les platanes, je vous assure que c'est un événement. Et c'est vraiment pour Happy Few, parce qu'il n'y a pas de public, on fait ça pour la presse et pour les lauréats, et aussi pour, comme ça, les amis de Michel Legrand, avec un concert exceptionnel. Avec tous les proches de Michel Legrand qui avaient dans son carnet les meilleurs. Le top du top du top.
Alors, voilà. Je vais vous offrir un trèfle à quatre feuilles. Il y a déjà le Maroc, vous êtes né à Rabat. Il y a vos deux maisons, le Gers et puis le château de Michel Legrand. Et il y a aussi, dites-moi le dernier, c'est la gourmandise. Vous avez écrit des livres où vous parlez des pâtes avec tellement de talent et d'inventivité. Et donc, gastronomie, le Maroc et puis les magnifiques maisons. Nous avons parlé de la musique.
J'ai aussi partagé ça avec ma sœur. Elle était gourmande comme moi. Parce que moi, je suis une exploratrice. C'est pas que je m'en gourmande. J'aime bien découvrir des choses. Et quand j'ai été en Italie, ça a été un choc culturel, hein, parce que c'est extraordinaire. L'Italie, on la connaît pas, d'ailleurs. Du nord au sud, il y a des recettes extrêmement différentes et très, 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 ça, d'ailleurs, qui ont inspiré la cuisine française au temps de François Ier, Catherine de Médicis, quand elle est arrivée en France, elle a trouvé qu'on mangeait comme des sauvages et elle a amené tous ses cuisiniers de Vérone et de Florence et c'est né, la cuisine française est née. Alors les gastronomes français n'aiment pas ce que je dis ça, mais c'est la stricte vérité. Hein. Bon, et donc cette chose-là d'explorer, mais aussi de conserver les grandes traditions, les choses qui sont vraiment valables et qui doivent être transmises, ça c'est un job parallèle que je continue à mener. D'ailleurs, je vais peut-être écrire un livre sur ça, sur le langage de la cuisine. La cuisine, c'est une langue. C'est quelque chose qui nous permet de nous dire des choses au-delà des mots. C'est comme la musique. La musique aussi, c'est au-delà des mots. C'est beaucoup plus percutant. Ça nous va dans le cœur directement. Et la cuisine, ça nous va dans l'estomac directement, mais aussi dans toutes les papilles gustatives, les yeux, les oreilles. C'est formidable, la gastronomie. Donc ça, c'est pour moi une deuxième vocation qui est très, très importante. Mm-hmm. Puis pour le reste, vous savez, je me souviens du Maroc, quand j'étais petite, il y avait une société beaucoup plus apaisée. Il y avait le Mella et la Médina. Le Mella, c'était le quartier juif, où il y avait les vendeurs de bijoux, on allait faire réparer les montres, on allait acheter des robes, etc. Et la Médina, c'était, on faisait carder la laine pour les matelas, on allait faire ressembler des chaussures. Et tout ce monde vivait en parfaite harmonie. Et chacun avait ses traditions, chacun avait sa cuisine. Et alors moi, je me souviens, j'adorais dans le quartier juif, il y avait des plats merveilleux qui n'existe plus d'ailleurs, je crains, parce que tout ça s'est beaucoup bâtardisé. Et il n'y avait pas de femmes voilées. On connaissait pas ça. Les Marocaines, elles n'étaient pas voilées. J'ai été récemment, justement, quand j'ai été présidente d'un jury de cinéma, sur lequel j'ai écrit un livre qui s'appelle
Jury. Ben oui, Jury, justement.
Eh bien, je suis allée justement dans cette ville de mon enfance qui s'appelle Salé, qui est de l'autre côté de Rabat, de l'autre côté de la rivière. Et ça m'a bouleversée parce que ça a complètement changé. Maintenant, il y a 350 écoles coraniques. C'est eux qui gèrent tout. Mmh. Et donc, effectivement, franchement, il y a une forme de d'ostracisme. On a l'impression qu'on n'est pas les bienvenus. Et d'ailleurs, nos guides nous disaient, écoutez, faites attention, ne vous promenez pas trop dans le souk parce que on sait pas ce qui peut arriver. Ça m'a chagrinée parce que c'était pas du tout ça, le Maroc. Mais enfin, écoutez, c'est la vie qui avance, qui change. Aujourd'hui, il faut se féliciter. On a enfin encore décapité d'autres terribles gouvernants iraniens. Je peux pas vous dire, moi je chante victoire. Je suis fière du Mossad et je suis fière d'Israël. Je pense ça sincèrement.
Vous voilà. Êtes adorable. Alors vous dire aussi que moi j'ai beaucoup aimé votre livre que j'ai trouvé très sincèrement, et vous savez, comme je suis critique, vous vous souvenez, vous m'avez invité à exposer sur vos grands murs, mais mes grands formats, j'ai pas pu les emmener, ça c'est une parenthèse que j'enlèverai. Mais je vous dis, donc c'est une écriture magnifique, et vous avez dit que vous avez écrit d'un seul jet, sans revoir. Et ben alors là, vous pouvez y aller, hein, faites, écrivez votre vie et épatez-nous.
Je vais essayer. Non, écoutez, je suis à un moment de ma vie où je suis en pleine possession de mes moyens. C'est ça la vieillesse. C'est formidable parce qu'on se sent fort, on se sent armé. Vous voyez, et bon, maintenant j'ai plus qu'à faire. Mais il faut que je me grouille parce qu'il y a tout petit compte en bourre quand même. Hein. Donc il faut que je me dépêche de faire toutes ces choses dont je pense que les meilleurs sont à venir. C'est pas encore ce que chaque fois, et c'est Michel Legrand qui disait ça, chaque œuvre doit être plus difficile, plus complète que la précédente. Quelquefois, il écrivait des partitions, je lui disais, écoute Michel, c'est impossible à jouer ça pour les pianistes, tu les rends fous. Il m'a dit, non, il faut qu'ils en chient, il faut que ce soit de plus en plus difficile, parce que c'est pas, il faut pas reposer sur ses lauriers, et il faut pas croire qu'on est déjà arrivé quelque part. Non, c'est demain qui va être meilleur. Eh ben, je pense ça profondément.
Bien, je vous remercie beaucoup déjà pour tous ces livres qui font rêver, qui nous transportent dans des univers toujours passionnant. Donc ce livre dont nous avons parlé aujourd'hui s'intitule « Je marche vers elle ». Ça vient de paraître chez Albin Michel. Merci beaucoup et à très vite.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.